Monsieur Héritier Doneng, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando Yangin.
Vous dirigez une équipe des jeunes pro-gouvernement qui ont remis une pétition au bureau de l'Assemblée nationale dans laquelle vous demandez aux députés d'organiser le processus de la révision de la Constitution centrafricaine. Quelles sont réellement vos motivations?
Je suis le président du Front républicain qui est une plateforme, non seulement pro-gouvernement, mais c'est une plateforme qui réunit en son sein plusieurs organisations de la société civile en bloc des forces vives de la nation. Nous avons remis à l'Assemblée nationale la semaine dernière une pétition pour demander la révision de l'article 154 de la Constitution. Nous nous sommes rendus compte que la Constitution de 2016, après qu'elle ne soit promulguée, le peuple n'a pas eu l'opportunité de lire cette Constitution. En parcourant cette Constitution, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs imperfections. Ce sont des questions de fond et de forme. Cette Constitution ne prend pas en compte les aspirations du bas peuple. Si vous allez parcourir la Constitution, son article 154 qui met en cause la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 2 du Code civil, qui est stupide que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. L'article 154 ne parle que des institutions de la transition. Le Conseil national de transition, le Haut Conseil de communication de transition, le chef d'État de transition, qui sont des institutions qui n'existent plus. Et du coup, cet article est déjà caduc. Vu que l'article est caduc, nous demandons à ce que cet article soit reformulé, soit révisé.
Mais force est de constater que cette constitution date de 2016. Pourquoi c'est pendant le dialogue républicain que les caciques du pouvoir ont soulevé cette affaire?
On a commencé à parler de ça depuis fort longtemps. C'était depuis 2016-2017.
C'était juste après la réélection du président Touadéra que les choses ont commencé?
Exactement, parce que le président Touadéra venait d'être élu en 2016. Après la prestation de son serment, ça se fait que nous nous sommes imprégnés de cette constitution parce que la constitution a été promulguée en 2016 et avant qu'elle ne soit promulguée, comme je venais de dire, on n'a pas lu.
Mais déjà, le président de la République a pris le service pour son premier quinquennat en 2016, le temps de mars. Pourquoi ne pas voir ça entre fin 2016-2017 pour régler ça, que d'attendre son second mandat qu'il vient d'amorcer? Que vous appelez à la révision de la Constitution, ça va provoquer la nullité de cette Constitution et lui offrira une opportunité à se représenter pour la troisième fois. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Nous avons commencé à décrier ça depuis fort longtemps, malheureusement qu'on n'a pas été écouté. C'est pendant le dialogue républicain à la commission gouvernance qu'on a essayé encore de réactualiser cette question. Pour nous, un dialogue, c'est un moment opportun pour les fils et filles du pays, de se concerter, de méditer, de réfléchir, de faire des insinuations, ainsi de suite. Nous avons ouvert le débat. Malheureusement qu'il y a eu des bruits dans la salle. Il y a d'autres compatriotes qui, par des intentions de boycott, ont créé des entraves au débat. Le président serait obligé de retirer ce débat et de se mettre. Mais pour nous, comme c'est un combat, nous avons commencé ça, il faut l'aboutir. Et voilà pourquoi nous avons lancé la pétition. On a descendu aller rencontrer nos compatriotes pour matérialiser cette demande à travers la signature de cette pétition qui nous a permis de collecter plus de 601 774 signatures qui ont dit oui, nous voulons que cette constitution soit modifiée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remettre aux ayants droit défini par l'article 151, 152, 153 de la Constitution. C'est l'Assemblée nationale et le président de la République.
Êtes-vous conscient, monsieur, du danger dans ce projet de révision de la Constitution?
C'est une demande réclamée par le peuple. La question est juridique. Nous, on veut se fonder que sur l'aspect scientifique du débat. C'est que cette Constitution met en cause nos petits cours de droit à la fac. Cette constitution, aujourd'hui, en fonction de son fond et de sa forme, ne cadre plus à nos réalités. C'est une constitution caduque.
Vous aviez organisé des signatures de pétitions dans presque tout le pays. Où est-ce que vous avez eu le financement de cette activité?
On n'a pas soudoyé quelqu'un, on n'a pas utilisé des grands moyens tels qu'il le faut. C'est des activistes. Bon nombre des membres de du Front républicain sont des activistes qui maîtrisent la matière de sensibilisation. On a utilisé nos points focaux qui habitent déjà dans leur localité, qui maîtrisent bien les localités, il suffit seulement de mettre à leur disposition les copies des pétitions et partent seulement à la rencontre de leurs compatriotes.
Et donc ce n'est pas le gouvernement qui vous a soutenu?
Il n'y a plus question de moyens. Je vous dis, on a utilisé même zéro franc pour sensibiliser les gens.
Mais vous êtes censuré que le nombre que vous avez collecté, le nombre de signatures, équivaut presque même au nombre d'électeurs pendant les élections groupées de décembre 2020.
Oui, tout à fait. Par rapport aux questions des signataires, moi, au début, lorsque nous lançons cette pétition, avec mon équipe, on a dit, pour nous, 100 signatures, c'est largement suffisant à remettre à l'Assemblée nationale de faire diligence. Mais on était stupéfiés du fait qu'en descendant sur le terrain, on s'est rendu compte que vraiment, il y a un engouement. Et je vous dis, jusqu'à ce jour, il y a des centrafricains qui continuent de m'appeler. Hey, mais nous, on n'a pas encore signé. Pourquoi vous êtes pressés d'aller déposer?
Mais sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont publié avec des billets des banques en contrepartie de cette signature.
Non, ça ça, c'est des hypothèses, c'est des mensonges. Les gens veulent seulement allumer la galerie. Ça, c'est question de billets de banque. Si il y en a, on n'a qu'à faire autre chose avec.
Des voix en sourdine se sont levées ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, appelant au concert de casseroles contre la hausse des prix de denrées alimentaires et la rareté du carburant. Vous dites que vous allez organiser le contre-pied de cette action pour démasquer les auteurs et les livrer à la police. Est-ce que, monsieur, le Front républicain que vous dirigez, une organisation des jeunes du pouvoir bien sûr, se substitue désormais aux forces de l'ordre et de sécurité?
Bon, en fait, nous sommes dans une logique de bataille de communication parce que les gens ont utilisé les médias pour dissuader, pour créer la psychose. Et nous aussi, on a utilisé cette voie médiatique pour les dissuader. Il n'y a plus question d'aller violenter un sujet centrafricain qui voulait revendiquer son droit par rapport à l'initiative lancée par certains compatriotes. C'est un groupuscule qui finit par ne pas convaincre la majorité.
Donc la question de la rareté du carburant, de la hausse des prix des denrées alimentaires, dans votre organisation, cela ne vous touche pas?
Question de rareté des produits de première nécessité sur le marché aujourd'hui est due à la crise russo-ukrainienne. Nous, peuple politiquement mature, on veut aller au fin fond de nos problèmes et comprendre nos problèmes et trouver des solutions. Pour nous, la solution, c'est pas quand il y a problème, on déferle dans les rues. Quand il y a problème, on met le feu au pays, on prend des armes. Pour nous aujourd'hui, quand il y a problème, on doit chercher à savoir pourquoi ce problème et quelle est la solution à apporter à ce problème.
Mais lorsque le mouvement Galaxie Nationale et Tali Takoum de Didier Assien Kossimati proche du pouvoir entendent organiser des veillées d'armes et de manifestations devant certaines ambassades à Bangui pour dénoncer leur implication dans la situation actuelle du pays, confirmez-vous les propos de l'opposition démocratique qui vous qualifie de milice gouvernementale?
Non, bon, ça c'est des veillées d'armes, c'est des jargons souvent utilisés par l'armée, mais c'est des jargons aussi qui pourraient être utilisés par des associations, c'est-à-dire passer des veillées, être vigilant pour voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas et dénoncer. C'est par cette définition que nous appelons veillées d'armes.
Est-ce qu'il est de votre devoir, vous ne substituez pas ici à la police et à la gendarmerie ou aux forces de l'ordre de sécurité?
Substituer à la police, substituer à la gendarmerie, il y a aussi des questions de devoir citoyen. Aujourd'hui, la jeunesse doit être vigilante. Ces jeunes qui se mobilisent, ces femmes qui se mobilisent pour dire non, on doit être en veillée d'âme, c'est-à-dire on doit être debout, on doit voir tout ce qui bouge dans le pays et on doit dénoncer. C'est des initiatives de dénonciation, ce n'est pas des initiatives d'aller prendre une arme blanche pour aller agresser quiconque, non.
Votre casquette du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, en même temps vous soutenez le pouvoir avec votre mouvement, vous ne craignez pas que vous êtes en train de diviser la jeunesse puisque vous devez les fédérer?
Non, aucunement pas. Je suis quelqu'un aguerri du professionnalisme qui sait faire quand, comment et pourquoi. Si j'exerce ma fonction administrative et légale au sein de l'administration, je suis là pour tout le monde.
Héritier Doneng, merci.